Bonjour à tous. Pour cette séance consacrée à un problème d'actualité, s'il en est, mais qui n'est pas simplement un problème d'actualité, ou en tout cas qui est un problème depuis longtemps dans l'actualité, puisqu'il a fait l'objet de réflexions, de commentaires et d'interrogations depuis au moins 1848, et probablement, nous y reviendrons peut-être dans la discussion, depuis les périodes des révolutions françaises et américaines. Question que nous traiterons avec nos deux invités, essentiellement sur un mode juridique, puisqu'ils sont tous les deux des constitutionnalistes, mais également sur le mode de la théorie politique et de la réflexion sur la démocratie. Donc, les deux invités aujourd'hui sont, à ma gauche, Pierre Brunet, qui est professeur de droit public à l'Université de Paris-Nanterre, qu'on appelle maintenant Paris-Ouest, où il dirige l'unité mixte de recherche du CNRS, de théorie et d'analyse du droit. Il dirige également le master théorie du droit à Nanterre. Et Pierre Brunet a publié deux ouvrages, notamment le premier préfacé par Tropper, qui était, si j'ai bonne mémoire, issu de sa thèse, qui était un volume ayant pour titre « Vouloir pour la nation », le concept de représentation dans la théorie de l'État, un titre qui faisait très référence, je dirais, au langage même de Carré de Malberg. Et ensuite, un deuxième ouvrage portant plus sur un certain nombre de ses travaux actuels, droit public des interventions économiques. De son côté, Arnaud Lepilouer, lui, enseigne à l'université de Cergy-Pontoise et il est détaché encore pour toute cette année au Collège de France où il travaillait avec Jon Elster. Lui, sa thèse porte aussi sur des questions de droit public et de droit constitutionnel et le livre qui en était issu avait pour titre « Les pouvoirs non constituants des assemblées constituantes, essai sur le pouvoir instituant ». Ils ont tous les deux écrit il y a quelques mois, au début octobre, il y a 4 mois, un article dans La Vie des idées qui a eu un certain retentissement, qui avait pour titre justement « Pour en finir avec l'élection présidentielle ». Alors c'était un titre extrêmement journalistique, mais le contenu était beaucoup plus juridique et politique. Et effectivement, cette question, pourrait-on dire, qui était très souvent débattu à partir de l'annonce par le général de Gaulle en 1961 qu'il procéderait à un référendum pour changer le mode de nomination du chef de l'État, n'a pas fait l'objet, disons, d'investigations théoriques systématiques, en fait, depuis cette date, même si la question est venue de façon récurrente dans le débat, et même si, au moment où a été présenté le projet de référendum, c'est à peu près concomitant, Pierre Mendès-France publiait l'ouvrage qui avait pour titre « La République moderne » et dans lequel il le considérait comme, je dirais, une réforme qui n'aurait qu'un effet passager et qui ne pourrait pas durer, celle justement de l'élection du chef de l'État au suffrage universel. Donc c'est une façon de rentrer dans l'actualité, je dirais, par un portail de la théorie politique et du droit constitutionnel. Donc je remercie nos deux invités de nous aider de cette façon-là à élever le débat et la réflexion qui en a peut-être bien besoin aujourd'hui. Donc voilà, je vous cède la parole. Donc c'est Arnaud Lepilouer qui va commencer à intervenir.
Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, évidemment. C'est un plaisir de venir s'exprimer ici. Donc je remercie beaucoup Pierre Rosanvallon pour cette invitation, un peu moins pour le sujet qui est particulièrement vaste, puisque nous devons analyser les débats qui ont eu lieu à travers l'histoire constitutionnelle française depuis la Révolution française autour de l'élection des organes exécutifs. C'est un sujet donc particulièrement vaste et je vais m'efforcer pour introduire le propos de situer un peu les enjeux de cette question de l'élection des organes exécutifs Et pour, alors c'est particulièrement difficile de parler d'enjeux traversant toute l'histoire constitutionnelle française, mais enfin je vais essayer de faire ça à travers, enfin avec, en prenant comme fil rouge de ce propos introductif une citation, la citation d'un député à l'Assemblée constituante de 1848, le député, le citoyen Martin, dit Martin de Strasbourg, qui faisait partie de la commission de constitution en 1848, qui donc a élaboré le texte constitutionnel qui, pour la première fois, prévoyait l'élection d'un président de la République au suffrage universel. Et Martin se situait en fait dans la minorité, sur cette question en tout cas, dans la minorité de la commission, puisqu'il était opposé à cette élection du président au suffrage universel. Alors, voilà ce que dit Martin contre cette élection. Je le prendrai comme fil rouge, encore une fois, de mon propos introductif. Donc, je vous demande un peu d'attention sur ce qu'il dit, puisque je vais y revenir tout au long de l'introduction. Il déclare que ce mode de désignation est sans exemple. Nulle part, dit-il, nulle part cette épreuve n'a encore été faite. C'est-à-dire que l'expérience n'a jamais été tentée. Nulle part, cette épreuve n'a encore été faite. Jamais, dans aucun pays, que dis-je, jamais aucun législateur, aucun écrivain n'avait osé proposer de faire nommer le pouvoir exécutif de la même manière que le pouvoir législatif, n'avait osé soutenir qu'il fallait donner au pouvoir exécutif la même autorité qu'au pouvoir législatif. Alors, cette déclaration m'a paru pouvoir servir de fil rouge parce qu'elle nous pose question à nous autres citoyens de la Ve République qui sommes très habitués à l'idée que le président de la République devait être élu par les citoyens. On s'est fait à l'idée, ça nous paraît tout à fait naturel. Et donc pour Martin, c'est vraiment quelque chose de tout à fait absurde, d'inconcevable que de procéder à cette élection. Alors, ça nous pose question, et ça permet de se poser un certain nombre de questions aussi sur l'histoire constitutionnelle française. Si Martin a raison, il faut qu'on se demande pourquoi aucun système avant 1848 n'avait prévu l'élection du président ou d'un organe exécutif. Pourquoi même, comme il le précise, aucun législateur, aucun écrivain n'avait même osé imaginer une telle solution. Et puis, autre question, pourquoi est-ce que en 1848, finalement, cela se fait, pourquoi la question se pose et pourquoi finalement on décide de choisir ce système. Et puis enfin, pourquoi est-ce que c'est devenu si naturel à nos yeux aujourd'hui ? Alors, il y aurait une réponse finalement assez tentante pour expliquer tout cela en même temps. Ce serait de dire que finalement, c'est le progrès démocratique qui conduit à tout cela. C'est qu'on n'était pas suffisamment mûr d'un point de vue démocratique sous la Révolution, puis qu'en 1848, l'idée a émergé et que finalement... Aujourd'hui, eh bien, nous avons tellement progressé que nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait évidemment faire élire le président au suffrage universel. Cette réponse est tentante parce que c'est une manière assez commune d'envisager les institutions actuelles. C'est le cas pour n'importe quelle constitution, mais il se trouve qu'on a... On a tendance à présenter les institutions qui nous gouvernent comme étant le dernier état d'une évolution constante, d'un progrès perpétuel de l'ingénierie constitutionnelle. Un dernier état, par conséquent, aussi satisfaisant que possible. Et de fait, la Ve République est souvent présentée comme une sorte de synthèse réussie des différentes traditions constitutionnelles françaises qui... concilierait la tradition parlementariste et la tradition présidentialiste, la tradition plébiscitaire et la tradition parlementaire, voire, comme le disait De Gaulle lui-même, la République et la monarchie sous les mêmes institutions, puisqu'elles réconcilient la démocratie et l'autorité. Et évidemment, au cœur de cette synthèse prétendument réussie, on trouve l'élection du président au suffrage universel direct, qui est présenté comme le moment démocratique par excellence, à tel point qu'on ne serait nullement étonné d'entendre dire à la télévision, voire sur France Culture, que la France est une démocratie, puisque nous élisons notre président de la République. Alors, ce n'est pas ici le lieu de nous étendre sur l'inanité d'une telle idée, ni sur la pauvreté de la conception de la démocratie que cela sous-entend, ni encore moins sur les conséquences désastreuses que cela produit sur le fonctionnement de nos institutions. Il se trouve que, comme l'a rappelé Pierre Rosanvallon tout à l'heure, nous avons écrit un petit pamphlet, Pierre et moi, sur la question à la vie des idées. Mais ce n'est pas le sujet ici. Ce qu'il s'agit pour nous de faire, c'est, dans le cadre de cet exposé, de prendre un peu de recul historique, précisément, sur ce mode de désignation de l'exécutif et du président de la République en particulier, avec le pari que la prise de distance historique est évidemment toujours profitable. Alors revenons donc à Martin de Strasbourg, expliquant donc à quel point la proposition de faire élire le président au suffrage universel était inédite, voire incongrue. Alors évidemment, ces propos doivent être interprétés à la lumière de la position qui est la sienne en 1848. Il ne s'agit évidemment pas des propos d'un historien, hein, c'est un homme politique qui prend la parole pour contester cette solution, donc il faut l'analyser comme telle. Qu'y a-t-il de vrai dans son affirmation ? Que rien de tel n'avait été fait, ni même pensé, avant 1848. Eh bien, on pourrait dire que, d'abord, si, en effet, on n'avait jamais pensé à faire élire le président de la République au suffrage universel avant 1848, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait jamais eu de président de la République avant 1848, ce qui est une première réponse sous forme de boutade, mais ça n'est que partiellement une boutade parce que cela nous fait comprendre qu'avant 1848, en France du moins, les organes exécutifs en République étaient toujours collégiaux. Hein, et ce n'est pas tout à fait pour rien que la première fois où, donc en 1848, on crée un président de la République, un titulaire donc unique de la fonction exécutive, même s'il va être accompagné de ministres, eh bien, on pense en même temps à le faire élire. Hein, ce n'est pas tout à fait un hasard de l'histoire. Alors, Martin a en fait raison, pour sortir de la boutade, de dire que les organes exécutifs, quels qu'ils aient été, collégiaux ou non, n'étaient pas élus au suffrage universel avant 1848. Si on élargit un peu le spectre à d'autres pays que la France, il faut quand même rappeler qu'aux États-Unis, sans parler de la Constitution fédérale, j'en dirai un mot tout à l'heure, dans laquelle le président était élu et toujours élu au suffrage universel indirect, puisque, comme vous le savez, les citoyens n'élisent pas directement le président des États-Unis, mais des grands électeurs qui sont chargés, eux, de désigner le président, eh bien, il ne faut pas oublier qu'avant les États-Unis, il y avait des États qui ont acquis leur indépendance en 1776 vis-à-vis de l'Angleterre et qui ont élaboré des constitutions. À ce moment-là, les organes exécutifs dans ces différentes constitutions étaient le plus souvent nommés par les chambres. Mais il y a quand même deux constitutions qui ont prévu l'élection du gouverneur, puisque c'était le titre que prenait le chef de l'exécutif dans ces pays, directement par les citoyens, c'était l'État de New York et l'État du Massachusetts. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, aux États-Unis, en Amérique, le suffrage était restreint. Hein, il ne s'agissait pas, seuls les propriétaires votaient. Ces conditions restrictives du vote ont cependant disparu en 1821, et donc il n'est pas tout à fait exact de la part de Martin d'affirmer que nulle part dans le monde l'exécutif n'avait été élu directement au suffrage universel. Alors, en tout cas, ce sont quand même des exemples assez restreints, il n'y en a pas beaucoup. On peut dire que si l'exécutif n'était pas élu avant 1848 au suffrage universel direct, en revanche, il y a eu des exemples d'élections au suffrage universel indirect, si toutefois cette expression a un sens, ce qui, à mon avis, est assez douteux. En tout cas, on l'utilise de manière sans doute un peu hypertrophiée. Mais on utilisait à l'époque de la Révolution plutôt l'expression de suffrage à degrés, à deux ou plusieurs degrés, ce qui est sans doute une expression plus juste. Et c'est un, à vrai dire, c'est le mode normal d'élection, d'élection avant, enfin sous la Révolution, c'est un mode très normal d'élection, y compris des députés. Et si on observe, on y reviendra, la manière dont les organes exécutifs ont été désignés sous la Révolution, on peut repérer des systèmes d'élection à degrés, même si ces degrés pouvaient être relativement nombreux. Il y a un exemple que connaît Martin, en tout cas, à ce moment-là, c'est l'élection, j'en parlais tout à l'heure, du président des États-Unis, qui est élu par des grands électeurs. Il faut cependant rappeler qu'aux États-Unis, rien dans la Constitution de 1787 ne précise comment ces grands électeurs doivent être désignés dans chaque État. Hein, il n'est pas du tout dit dans la Constitution des États-Unis que ces grands électeurs doivent être désignés au suffrage universel par les citoyens. Ce n'est qu'à partir des années 1820 que ce mode s'est généralisé, mais ce qui est prévu dans la Constitution, c'est que ce sont les législatures de chaque État qui déterminent la manière dont les grands électeurs de cet État seront désignés. Et donc, le fait qu'ils soient désignés au suffrage universel, ces grands électeurs, n'est apparu que plus tardivement. Quant à la France, on verra donc que l'organe exécutif collégial, donc en République, a été l'objet d'une procédure de désignation qui a impliqué un mode d'élection, même si c'était à plusieurs degrés, et même si, le plus souvent, il y avait intervention du corps législatif dans la désignation de l'exécutif. Donc, pour résumer sur la déclaration du député Martin, il a quand même globalement raison d'affirmer que c'est la première fois en 1848 qu'on décide de faire élire un président et même un organe exécutif en général directement par l'universalité des citoyens. Même si ce n'est pas la première fois, comme je viens de le préciser, que des membres d'organes exécutifs étaient élus au sens large du terme, c'est-à-dire que leur désignation avait pour base l'élection, puisqu'ils l'ont été par des procédures qui prévoyaient plusieurs degrés, même si, évidemment, l'intervention que j'évoquais tout à l'heure de l'organe législatif dans cette désignation, évidemment, cette intervention change tout quant à la signification de cette désignation. Alors, du reste, si on revient à la citation de Martin de manière un peu plus précise, on voit que ce que dit Martin, c'est que la nouveauté contre laquelle il s'insurge en 1848, c'est surtout qu'on décide, je le cite, de faire nommer le pouvoir exécutif de la même manière que le pouvoir législatif. Alors, c'est pas tout à fait vrai, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'il y a les constitutions de New York et du Massachusetts qui sont des contre-exemples, mais en France, en tout cas, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que cela revenait, selon lui, pourquoi il ne fallait pas faire nommer le pouvoir exécutif de la même manière que le pouvoir législatif ? Parce que ça revenait à donner au pouvoir exécutif la même autorité qu'au pouvoir législatif. Alors, on voit que ici Martin se réfère à une conception du pouvoir exécutif, de la fonction exécutive, qui n'est plus du tout en cours aujourd'hui. C'est une conception qui date de l'époque révolutionnaire, du XVIIIe siècle, et qui est une conception qui est encore très prégnante en 1848. J'y reviendrai plus tard dans l'exposé. Au XVIIIe siècle, on considère que le pouvoir législatif, c'est-à-dire la fonction législative, consiste à exprimer la volonté de la nation. Et la fonction exécutive, le pouvoir exécutif, consiste à mettre en œuvre simplement cette volonté. Donc, si un organe exécutif n'a en charge que la fonction exécutive, comme ça va être le cas dans toutes les constitutions républicaines jusqu'en 1848, en tout cas, eh bien, si cet organe n'est en charge que de la fonction exécutive, alors il est, par définition, par hypothèse, soumis au législatif. Il n'est en charge que de la mise en œuvre matérielle des lois et n'a pas, normalement, à exprimer une quelconque volonté. Du coup, on comprend qu'il soit absurde, du point de vue de Martin, d'attribuer au soumis la même autorité qu'à son maître. C'est le sens de son propos. Et c'est donc cela qui explique qu'avant 1848, toutes les constitutions républicaines qui toutes cantonnaient l'organe exécutif à la fonction exécutive, eh bien, dans ces constitutions, l'organe exécutif n'était pas élu directement, puisque l'organe exécutif devait demeurer soumis à l'organe législatif. Alors, mais qu'est-ce qui implique, donc, qu'en 1848, on opte quand même pour cette solution et qu'aujourd'hui, finalement, on y voit quelque chose de relativement naturel, voire de foncièrement démocratique. Qu'est-ce qui explique cette évolution? On peut dire qu'il y a deux choses essentiellement qui l'expliquent. D'abord, qu'à partir de 1848, le suffrage universel se soit imposé comme la principale revendication démocratique, en particulier à partir des chartes, puisque en réaction contre le suffrage censitaire très, très strict qui était en cours sous les chartes, la revendication du suffrage universel est devenue tout à fait centrale, ce qui a conduit à ce qu'il s'impose de façon de plus en plus large, ce qui a conduit d'ailleurs à modifier la signification même du recours au suffrage universel qui va peu à peu apparaître comme un mécanisme qui permet la transmission de la volonté du corps électoral aux organes qui l'élit. Du coup, c'est un mécanisme qui apparaît comme étant très lié à l'idée démocratique. Et ça, c'est quelque chose qui est, encore une fois, tout à fait impensable sous la Révolution, et même en 1848. Puis il y a un autre phénomène qui a beaucoup pesé dans le fait que l'on considère finalement qu'il était envisageable de faire élire le président au suffrage universel et un organe exécutif au suffrage universel, c'est le fait que ces organes exécutifs ont vu leurs compétences croître régulièrement depuis la Révolution. Progressivement, ils ont acquis une importance politique très grande, parce que leurs compétences se sont peu à peu, en pratique, et ensuite on en a fait la théorie, mais elles ont évolué puisqu'ils ont pris du poids à travers l'exercice d'un certain pouvoir réglementaire, à travers leurs compétences en matière internationale, en matière militaire, et surtout, évidemment, dans l'initiative des lois, leur participation à la formation de la loi en a fait des organes politiquement tout à fait importants et qui sont devenus de nos jours centraux dans toutes les démocraties. Alors voilà, tout cela, on va essayer d'en rendre compte de manière relativement précise en analysant ces diverses évolutions concomitantes en trois temps. D'abord, Pierre Brunet va faire une présentation sur, disons, la période révolutionnaire entendue relativement largement, ce qui permettra de comprendre le sort fait aux organes exécutifs à l'époque et surtout la signification de l'élection à ce moment-là. Ensuite, je reprendrai la parole pour faire un petit exposé sur la question de l'élection du président en 1848, qui est évidemment, à mon avis, un épisode tout à fait central, qui est un moment charnière dans l'histoire constitutionnelle française du point de vue de cette question. Et enfin, Pierre Brunet reprendra la parole pour parler, disons, de la modernité et en particulier de cette question sous la Ve République. Donc je passe la parole à Pierre.
Merci. Arnaud, merci infiniment à Pierre Auzan-Vallon de nous avoir invités. Effectivement, je vais dire des petites choses sur la Révolution. Je serai assez bref, puisque, en réalité, comme vous le savez, la Révolution s'entend, si, disons que si on l'entend jusqu'à Napoléon, la question de l'élection de l'exécutif est une question qui se pose en fait assez peu dès lors qu'il s'agit de la question d'un chef d'État ou d'une autorité à laquelle on confierait ce titre. Mais il y a des choses intéressantes à étudier sur la Révolution dans la mesure où, pour notre histoire constitutionnelle, elle constitue, outre tout ce que l'on peut lui attribuer, elle constitue le moment où l'on généralise le principe électif. Et cette généralisation s'entend évidemment de ce processus qui est bien connu, mais dont il faut, qu'il faut rappeler en permanence, qui est le besoin de régénérer la nation ou le royaume. Et cette régénération passe précisément par une contestation et une disparition de ce principe héréditaire qui régnait jusqu'alors. Et lorsque les révolutionnaires, là encore je vais dire des choses très connues, mais lorsque les révolutionnaires cherchent à introduire ce principe électif, la première chose qu'ils font, c'est précisément de faire en sorte que toutes les fonctions publiques procèdent de l'élection. Ils vont même aller, pendant le débat constituant de 89-91, ils vont même aller jusqu'à s'interroger sur la possibilité de faire élire un régent, lorsque l'on se trouverait face à un cas assez exceptionnel, il faut bien l'admettre, mais possible, d'un roi mineur pour lequel il n'y aurait aucun héritier, aucun parent susceptible d'accéder à la fonction de régent telle qu'elle a été déterminée par des conditions antérieures par le texte. Et ce débat, que je ne vais pas reprendre ici, mais ce débat qui est une parenthèse sur la question de l'élection éventuel d'un régent donne lieu à des discussions très, très riches et très intéressantes sur ce que c'est qu'une élection, qui doit élire, comment doit-on élire et à quoi sert précisément, quelle est la fonction de cette élection. Y a-t-il un droit d'élire, un droit du peuple, un droit des individus ou bien au contraire, est-ce que l'élection elle-même est une fonction publique en tant que telle ? Cette discussion sur l'élection comme droit, l'élection comme fonction, est une discussion très complexe. Et il est sans doute un peu délicat de rentrer dans le cœur du sujet ici. Je vais tenter de l'aborder plutôt par la bande, en essayant de montrer que, dès lors que l'on généralise ce principe électif, on se heurte évidemment à une question difficile, délicate, une sorte de presque d'aporie, qui est de savoir dans quelle mesure ceux qui sont élus ne peuvent pas, sur le seul fondement de cette élection, se déclarer précisément des représentants. Et cette question est délicate, puisque, comme l'a très bien dit Arnaud Lepilouer, sous la Révolution, on ne conçoit pas les rapports entre l'exécutif et le législatif comme des rapports susceptibles d'être égaux, et l'on pense, au contraire, l'exercice du pouvoir selon une hiérarchie très forte, une subordination de l'exécutif au législatif. Alors, comment faire coexister, dans le même esprit et dans le même discours, d'un côté, la généralisation d'un principe électif, et donc la généralisation du processus électoral pour la désignation des fonctions publiques, avec cette hiérarchie et cette lecture de l'exercice du pouvoir, où le législatif est évidemment dominant en permanence et l'exécutif dominé. On pourrait penser que les choses sont très simples. Après tout, on fait élire aussi bien le corps législatif que les corps administratifs, et puisque les catégories législatif et exécutif se rapportent d'elles-mêmes à une hiérarchie d'exercice du pouvoir, après tout, bien évidemment, les administrateurs élus entendront leurs compétences comme subordonnées à celles du corps législatif. Mais paradoxalement, les hommes élus sont des hommes, et dès lors qu'ils sont élus, ils ont beaucoup de mal avec les catégories qu'on leur oppose. Et il n'est pas rare de voir, en effet, le droit nous le prouve tous les jours, n'est pas rare de voir que les textes changent de sens selon les gens qui les lisent, et notamment lorsque ces gens qui lisent les textes sont eux-mêmes élus. Alors, la Révolution connaît précisément ce moment très difficile où, à l'origine, en 1789, et notamment au moment de la discussion de la première, grande loi révolutionnaire que nous connaissons, sous laquelle nous vivons encore, qui est la définition du territoire, c'est-à-dire cette loi de décembre qui a créé les départements tout en maintenant les communes et qui redéfinit entièrement la nation ou le territoire national et qui vise donc à supprimer, à balayer les circonscriptions qui existaient sous l'Ancien Régime, loi dont l'inspirateur est évidemment Sieyès et qui sera ensuite défendue, discutée par Touré au moment de la discussion parlementaire, au moment de la constituante. Cette loi crée justement ce que l'on a appelé une double représentation, en prévoyant que toutes les fonctions administratives seraient désignées, enfin tous les administrateurs, pardon, seraient désignés au terme d'une élection. Et l'on fait coexister, et l'on parle d'ailleurs au moment du débat et dans les textes que l'on consacre, on parle d'une représentation nationale et d'une représentation provinciale. Et évidemment, inévitablement, parce que l'on qualifie différemment ces représentations qui procèdent toutes de la même source, c'est-à-dire l'élection populaire, on admet qu'il y a bien évidemment deux fonctions différentes, qu'il n'y a absolument pas d'interpénétration possible et qu'il n'y a même pas de confusion possible. On va prendre soin en permanence de montrer que, encore une fois, ces assemblées représentatives ou ces assemblées élues sont effectivement représentatives parce que, ce faisant, on espère, et c'est le projet de Sieyès, on espère lutter contre les particularismes locaux, pardon, on espère provoquer cette unité nationale à laquelle on aspire, et on prétend, et je cite même Sieyès, on prétend en effet que par la constitution d'un pouvoir législatif, on forme une bonne représentation en la prenant à sa base, c'est-à-dire dans la généralité des citoyens, et en la conduisant jusqu'au Sénat national, qui est le couronnement d'édifice où réside l'exercice du pouvoir législatif. Ça, c'est le mouvement ascendant. Mais ce mouvement ascendant se complète d'un mouvement descendant, un mouvement dans lequel, précisément, l'exécutif lui-même constitué par cette généralité des citoyens est lui-même une bonne représentation de cette collectivité d'individus. Et ce pouvoir exécutif va appliquer très naturellement, très harmonieusement, la loi qui aura été votée par le corps législatif. Donc, dans le projet, les choses sont extrêmement harmonieuses, extrêmement simples. Et comme le disait Touré, le plan qui était présenté visait à ce qu'un mouvement uniforme fasse arriver la représentation nationale au corps législatif et la représentation provinciale aux assemblées administratives. Vous voyez, nous vivions, nous espérions, ou ils espéraient en effet, créer cette harmonieuse unité qui ne donnerait lieu à aucune contestation. Le problème, et la thèse d'Arnaud Lepilouer en est évidemment un témoignage évident, c'est que cette constituante, en même temps qu'elle constitue un État et un système constitutionnel et politique, cette constituante prend des lois, exécute ces lois, et l'administration se met en place petit à petit, en même temps qu'on est en train de faire la Constitution. Et à partir de 1790, on observe, dans les provinces, justement, dans ces assemblées que l'on a constituées, et qui sont constituées de représentants élus, mais qui ne sont pas censés être des représentants nationaux, mais seulement provinciaux, administratifs, on voit apparaître un discours de contestation de l'autorité du corps législatif. On voit par-ci, par-là, dans certaines provinces, les assemblées se déclarer elles-mêmes représentants, ne pas ne pas comprendre ou manifester une forme d'incompréhension à une obéissance à laquelle qu'on essaye de leur imposer. On les voit même parfois prendre certaines libertés avec les compétences dont elles sont investies, notamment, comme par hasard, en matière fiscale. Et on s'aperçoit petit à petit que l'harmonieuse unité que l'on prétendait avoir constituée était en train ou risquait tout simplement de s'effondrer. Et le problème majeur que tout le monde identifie très bien sous la Révolution, c'est évidemment que l'effondrement vient de ce qui est pourtant le fondement même de cette unité que l'on cherche à constituer, à savoir l'élection. Alors, très vite, on introduit des textes qui vise à imposer aux administrateurs de n'être que des administrateurs, bien qu'élus. Et la Constitution de 1791, comme la Constitution de 1793, enfin, c'est-à-dire la Constitution montagnarde, mais le projet girondin contient exactement les mêmes dispositions, exactement comme l'an III, tous ces textes comprennent un même schéma, à savoir que l'Assemblée nationale, le corps législatif, est élu, certes, tous les corps administratifs sont élus, certes, mais aucun représentant des provinces, aucun administrateur ne peut se déclarer représentant. On introduit avec force cette idée que la représentation ne procède pas de l'élection, que l'élection en elle-même n'est jamais le moment par lequel on accorde le pouvoir en question, le pouvoir d'administrer ou le pouvoir de légiférer. L'élection n'est qu'un moment par lequel les individus accordent leur confiance à un individu, désignent le plus capable, désignent celui qui est apte à exercer une fonction, mais la fonction en question ne dépend jamais de cette élection. Et la Révolution procède à ce détachement, cette distinction radicale entre l'élection, le mode de nomination de l'autorité et l'autorité elle-même. Et cela vaut aussi bien lorsque l'autorité est pensée en tant qu'individu ou en tant que fonction. Je signale cela très rapidement. Le terme autorité comme le terme pouvoir sont des termes très ambigus, car en effet, ils peuvent désigner aussi bien la fonction que l'on exerce que l'individu qui exerce cette fonction. Mais dans les deux cas, que ce soit l'individu ou la fonction, elle est détachée, ils sont détachés de cette élection. Et la discussion rebondira sous la Révolution, au début de la Révolution, lorsque l'on procédera à l'élection des juges. En effet, on a un peu oublié cela aujourd'hui, bien sûr, mais la Révolution française, les constituants en 89, se posent la question de savoir comment nommer les juges. Il y a là deux solutions, très simples, les faire élire ou les faire nommer par le roi. Car il apparaît évident que les juges relèvent du pouvoir exécutif, dans la mesure où juger, c'est tout simplement appliquer la loi à un cas d'espèce. Et il y a même un très grand nombre de constituants qui, lorsqu'ils ont besoin de définir la fonction de juger, explique que ça n'est rien d'autre qu'une fonction d'exécution, qu'il n'y a pas trois, il y a peut-être trois pouvoirs, comme certains ont pu l'écrire dans l'esprit des lois, mais il n'y a jamais que deux puissances, la puissance de vouloir et la puissance d'exécuter. Et les pouvoirs, les trois fameux pouvoirs, ce ne sont en fait que des autorités qui exercent ces puissances. La puissance de vouloir, évidemment, revient au corps législatif, la puissance d'exécuter relève de l'administration, de l'exécution de la loi, donc du roi. Et puisque les juges eux-mêmes appliquent la loi à un cas particulier, alors que le roi et ses ministres appliqueront la loi à des cas généraux, eh bien, les cas particuliers doivent être déterminés eux-mêmes par la loi, de sorte qu'il n'y a aucun doute que les juges relèveront du pouvoir exécutif, donc du roi, donc seront nommés par lui. Sauf que cette réponse-là, parfaitement argumenté au regard des catégories et des concepts qui sont ceux des révolutionnaires, cette réponse est politiquement délicate. Car vous comprenez très bien que si l'on fait nommer les juges par le roi, alors on accorde à ce roi une portion de pouvoir que beaucoup lui refusent. On lui a déjà accordé un veto, et pour beaucoup de constituants, cela suffit largement. Il est même peut-être question de revenir sur ce veto dans le débat constituant. Alors, comment défendre l'élection des juges sans porter une trop grande atteinte au concept dont on se sert. Eh bien, il y a un constituant qui aura très habilement la réponse, c'est Barnave, le même Barnave qui, en août 91, fera du veto du roi une fonction, une portion du fonction, de la fonction législative, parce que le veto, c'est finalement un moyen d'exprimer la volonté, au même titre que le corps législatif. Et Barnave, lui, va tout simplement tordre un petit peu les choses en expliquant que juger, ça n'est pas vraiment exécuter la loi. Il ne faut pas non plus exagérer. En réalité, le jugement, c'est tout simplement une forme de volonté. C'est l'exercice d'une volonté dans un cas particulier. La décision d'un juge, écrit-il, dit-il à l'Assemblée, n'est qu'un jugement particulier, comme les lois sont un jugement général. L'un et l'autre sont l'ouvrage de l'opinion et de la pensée, et non une action ou une exécution. Donc, les juges doivent évidemment être délégués par le peuple, c'est-à-dire élus par lui, parce que tous les pouvoirs doivent être délégués par le peuple dans un système où, d'une part, toutes les fonctions doivent être électives et où toutes les autorités sont représentatives, même si au sein des représentants, il y en a qui ne le sont pas vraiment. Et le débat l'oppose très, très frontalement à Clermont-Tonnerre, qui admet parfaitement que tous les pouvoirs doivent être délégués par le peuple, c'est-à-dire que toutes les fonctions publiques doivent procéder à un moment ou à un autre d'une volonté de la nation. Mais néanmoins, dit Clermont-Tonnerre, juger, ça n'est absolument pas exprimer un jugement, une opinion, c'est évidemment exécuter la loi. Mais dans le débat, c'est Barnave qui gagne. C'est Barnave qui gagne, non pas pour des raisons conceptuelles, mais pour des raisons tout à fait politiques, à savoir que l'on cherche évidemment à soustraire les juges à l'autorité du roi, et c'est donc contre le roi que l'on vote l'élection des juges. Et quelques mois plus tard, de manière très amusante, Barnave défendra sans aucun scrupule le fait que, évidemment, juger, c'est exécuter la loi. Ça ne lui posera aucune difficulté d'expliquer que les juges sont élus, c'est très bien, mais il ne faut pas quand même imaginer que les juges puissent être des représentants de quoi que ce soit. Ils sont là pour exécuter la volonté nationale exprimée par le corps législatif. Alors, cette discussion donnera lieu évidemment à une remise en cause très forte. Les juges cesseront d'être élus et l'on en finira avec cette sorte de parenthèse, cette absurdité au regard du système conceptuel que l'on met en place en 93, comme en 95. Dès lors qu'il n'y a plus de roi, il n'y a plus ce problème de la question de ce pouvoir et donc on ne cherche plus à soustraire les juges à l'autorité de l'exécutif. Mais ces débats qui sont un peu loin mobilise un très grand nombre, encore comme vous l'avez vu, de concepts, de théories, de justifications qui sont parfois assez pesantes, assez embarrassantes et qui finissent en effet par modifier les représentations que l'on se fait de l'exercice du pouvoir. Il reste que la Révolution cherche toujours à subordonner l'exécutif au législatif et, encore une fois, la question de l'élection ne fait plus problème dès lors que l'on prévoit, à l'aide de force de nombreux articles, que, bien qu'élus, ceux qui exercent des fonctions tiennent leurs fonctions de la Constitution et non pas d'un peuple qui transmettrait une quelconque volonté. Et c'est probablement cette articulation qui va finir par se dissoudre, s'amenuiser à partir de 1848. Et je rends la parole à Arnaud Le Pilouer.
Merci. Alors, sur 1848, je vais essentiellement m'appuyer sur les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée constituante, parce que il faut quand même rappeler que c'est la seule fois dans toute l'histoire constitutionnelle française où l'on a débattu au sein d'une Assemblée constituante avec des arguments de théorie constitutionnelle, disons, sur la question de savoir s'il fallait ou pas faire élire le président au suffrage universel, puisque en 1962, il n'y a pas eu de débat dans une assemblée. Et le débat public autour de cette question n'a pas été d'une grande richesse. On a beaucoup parlé de la procédure qui avait permis la révision de la Constitution, mais finalement assez peu du fond, même si, on le verra tout à l'heure dans l'exposé de Pierre, évidemment des arguments ont été échangés. Donc je vais parler des débats sous la Constituante, et je voudrais D'abord, dire quelques mots de la position que prend l'Assemblée à ce moment-là, expliquer un peu les raisons du choix qu'elle opère. Et puis ensuite, je voudrais expliquer pourquoi il me semble que cet épisode est, comme je le disais tout à l'heure, un moment tout à fait charnière dans l'histoire constitutionnelle française en ce qui concerne la question de l'élection de l'exécutif. Alors d'abord, sur la position prise par l'Assemblée, il faut comprendre que ce qui provoque essentiellement la révolution de février 1848, c'est précisément, comme je le rappelais tout à l'heure, la revendication du suffrage universel en réaction contre le suffrage censitaire. L'élargissement du droit de suffrage était une des revendications les plus fortes à la fin des chartes, et parce qu'on considérait que elle permettait ce suffrage restreint, permettait la confiscation du pouvoir par une élite, que elle faisait aussi le terreau de la corruption qui était très répandue à ce moment-là. Et c'est donc une revendication, le suffrage universel est donc une revendication très forte des républicains, et en particulier des républicains radicaux. Alors, a priori, on pourrait se dire qu'il n'y a donc pas beaucoup de surprises à voir l'Assemblée constituante issue de la Révolution de 1848 consacrer l'exercice du suffrage universel de manière très large, y compris donc dans son domaine d'application, y compris donc pour l'élection du président de la République. En fait, la réalité est un peu plus complexe, parce que si on se penche un peu sur les débats, on se rend compte qu'en fait, cette solution de l'élection du président au suffrage universel, c'est une solution qui a été rejetée par les républicains les plus à gauche, les républicains les plus radicaux. Et cette solution, pas seulement par les républicains les plus radicaux, mais par une bonne frange des républicains, et elle a été au contraire soutenue à l'Assemblée constituante, plutôt par la droite et le centre, c'est-à-dire par les républicains, une frange des républicains modérés, et les républicains qu'on appelait les républicains du lendemain, c'est-à-dire d'anciens monarchistes convertis à la République, puisque en 1848, tout le monde se dit républicain. Mais on s'identifie assez bien entre les députés, entre citoyens républicains de la veille et républicains du lendemain. C'est le vocabulaire de l'époque. Alors, comment expliquer l'opposition des uns, alors qu'ils revendiquaient le suffrage universel comme une revendication démocratique tout à fait fondamentale, et le ralliement des autres, c'est-à-dire les républicains du lendemain, qui étaient idéologiquement plus hostiles au départ. Alors, certainement, ces deux positions s'expliquent par des raisons de calcul politique, de stratégie politique, peut-être, mais aussi pour des raisons plus profondes. Les deux camps savent bien que faire élire le président au suffrage universel lui conférera une grande autorité. Alors, cette autorité est sans doute précisément ce qui effraie les uns, une partie des républicains, qui a d'autant plus peur de cette grande autorité que commence à émerger la figure de Louis-Napoléon Bonaparte au sein de la Constituante. Et cette autorité rassure les autres, d'autant plus que l'envahissement de l'Assemblée constituante par la foule le 15 mai et les journées insurrectionnelles de juin 1848 leur ont rappelé que l'autorité du pouvoir exécutif, ça pouvait être utile, si jamais ils l'avaient oublié. Donc voilà pour les positionnements, disons, idéologiques, très grossièrement tracés. Une des raisons qui est parfois avancée pour expliquer cette solution, c'est aussi que la constituante de 1848 aurait plus ou moins copié le système américain. C'est une idée reçue sur 1848, que ce serait une sorte de transposition pas très habile et pas très heureuse de la Constitution américaine. Cette idée s'explique en particulier par le fait que la présence de Tocqueville au sein de la Constituante et au sein de la Commission de Constitution, Tocqueville, grand spécialiste reconnu de l'Amérique à ce moment-là, avait dû influer sur les solutions adoptées. Et puis aussi par le fait qu'il y a en effet un certain nombre de mécanismes prévus dans la Constitution qui rappellent furieusement la Constitution américaine. Le président de la République, par exemple, est élu pour 4 ans, exactement comme aux États-Unis. Et puis, il est prévu également, si on en reste à la question de l'élection, il est prévu également un système qui est inspiré du système américain, qui est que si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages lors de l'élection, ou n'obtient pas suffisamment de suffrages, il faut au moins 2 millions de suffrages, ou encore s'il ne satisfait pas aux conditions d'éligibilité, alors il reviendra à l'Assemblée nationale de choisir le président parmi les 5 noms arrivés en tête des suffrages. Et ça, c'est un système qui est inspiré de la Constitution américaine de 1787. Alors, tout ça est vrai, et en même temps, il y a beaucoup de différences entre le système américain et le système adopté en 1848. Et d'ailleurs, les constituants ne cessent d'insister sur ces différences, sur le fait qu'on ne peut pas transposer les solutions américaines en France. Et pour dire simplement deux traits qui distinguent fortement les deux constitutions, on peut dire, et qui concernent le président, premièrement, une des grosses différences, c'est que, évidemment, le président américain, comme je le rappelais tout à l'heure, est élu au suffrage universel indirect, et alors qu'en France, on choisit un suffrage universel direct, et on a bien conscience que c'est très différent. Les deux systèmes conduisent à des solutions très différentes. Martin de Strasbourg le rappelait dans la citation par laquelle j'ai commencé. Et surtout, le président des États-Unis dispose d'un droit de veto qui est surmonté par une majorité des deux tiers dans les deux chambres, mais il dispose d'un droit de veto, ce n'est pas un droit de veto absolu, mais c'est un droit de veto, et on refuse d'attribuer au président français ce droit de veto. On le refuse de manière très claire, et ça change tout quant à la question de son élection, on va le voir. Pour les constituants de 1848, le veto, c'est le symbole même de la monarchie constitutionnelle. C'est le système de la monarchie, le système contre lequel on s'est dressé. Et donc, le rejet est quasi unanime au sein de la Constituante. Personne ne veut attribuer de veto au président de la République, y compris les républicains du lendemain. Dufort, par exemple, qui était membre de la Commission de Constitution, déclarera au sein de cette commission, le 14 juin, je cite, « Il n'est plus possible de rechercher l'équilibre des pouvoirs comme on l'essayait vainement sous la monarchie constitutionnelle. » L'équilibre des pouvoirs, c'est cela, c'est le fait que l'autorité exécutive disposant d'un veto, elle peut s'opposer aux lois, et donc il y a un équilibre qui se crée, puisqu'aucune loi ne pourra être adoptée sans l'accord des deux organes, l'Assemblée et l'organe exécutif. Donc il n'est plus possible de rechercher cet équilibre, comme on l'essayait vainement sous la monarchie constitutionnelle. Il faut accepter franchement, c'est intéressant dans la bouche d'un ancien monarchiste, il faut accepter franchement la prépondérance d'un pouvoir unique, celui de l'Assemblée. C'est elle qui fait les lois et qui, par ce droit conféré à elle seule, gouverne la société. Donc il semble bien qu'en 1848, l'idée que l'on se fait de l'organe exécutif républicain, c'est un organe dépourvu de veto, c'est un organe cantonné à l'exécution. Néanmoins, les deux camps s'accordent, les deux camps, ceux qui sont favorables à l'élection du président et ceux qui y sont opposés, je veux dire, sont d'accord pour dire une chose, c'est que l'exécutif doit être fort. Mais il faut bien entendre ce que ça veut dire que fort dans leur bouche. Ils sont donc tous opposés à ce qu'on appelait la balance des pouvoirs sous la Révolution, c'est-à-dire à ce partage de la fonction législative. L'exécutif est bien cantonné à l'exécution. Pour ceux qui sont favorables à l'élection du président au suffrage universel, fort, cela veut dire suffisamment légitime pour être en mesure de s'opposer aux empiétements que ne manquera pas de vouloir faire l'Assemblée nationale sur les compétences exécutives. Il faut que l'exécutif soit suffisamment fort pour résister surtout à une Assemblée unique, puisqu'on a rejeté le bicaméralisme auparavant. Donc, il faut une origine solide à ce président pour qu'il puisse exercer ses compétences en toute indépendance et ne pas risquer les empiétements de l'Assemblée. Tocqueville explique cela de manière très, très nette. Il dit « Non, messieurs, la République n'a qu'une tête, l'Assemblée nationale. Le chef du pouvoir exécutif n'est qu'un de ses agents, mais il serait bientôt son esclave si vous le laissiez élire par elle. Si limité, resserré, garrotté, si j'ose dire, de la manière que je viens d'indiquer, il ne lui resterait rien, absolument rien. Ce qui fait que le pouvoir exécutif, malgré sa dépendance légale, pourra même jouir d'un certain poids dans les affaires s'il est élu par la nation. Savez-vous quoi, messieurs, c'est qu'à côté de cet être faible, si faible, on voit marcher la grande ombre du peuple. C'est l'image du peuple qui apparaît à ses côtés, c'est l'ombre du peuple en quelque sorte qui plane sur lui, qui fait sa seule force. Retirez-le lui, et au terme de la Constitution, il ne lui reste rien. » Pour les opposants à l'élection, le pouvoir exécutif doit aussi être fort. Mais ils l'entendent dans un sens un peu différent. Pour eux, fort, ça veut simplement dire que le pouvoir exécutif, l'organe exécutif, doit être fort vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de l'administration en particulier. Ça n'implique aucune autonomie vis-à-vis de l'Assemblée, au contraire. Ce doit être, disait Parieux, un pouvoir fort contre ceux qui désobéiraient à la loi, mais faible vis-à-vis de ceux qui la font. En tout cas, il est hors de question, évidemment, pour eux, que l'organe exécutif puisse se dresser, entrer en conflit avec son maître, qu'est l'Assemblée nationale. Ils s'opposent donc à l'élection parce que, selon eux, le président de la République, doté d'une telle autorité du fait de son élection par le peuple directement, eh bien, ce président ne restera pas dans les bornes que la Constitution tente de lui fixer. Il voudra plus et il risque de dominer l'Assemblée. Parieux, encore lui, dans un grand discours en date du 5 octobre, exprime parfaitement cette crainte. Il dit « Vous introduirez ainsi un antagonisme du pouvoir exécutif avec la représentation nationale que vous mettez cependant auprès de lui. C'est-à-dire que vous créez un pouvoir fort et puis lui tressant dans la constitution des chaînes fragiles, vous lui dites « Tu ne te débattras pas, tu ne t'agiteras pas, tu ne romperas pas les bandelettes dont nous t'entourons. » Évidemment, il ne croit pas que le pouvoir exécutif se contentera des compétences que lui attribue la Constitution. Pour les opposants à ce système, si vous voulez, le président de la République, c'est la figure inversée du colosse au pied d'argile. C'est au contraire, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que c'est un être faible à qui on donne des fondements trop solides. C'est ce que dit Parieux en utilisant une autre image. Il dit « Vous allez lui donner en quelque sorte des racines de chêne pour mettre au-dessus une végétation de roseaux. » Bref, les adversaires de l'élection craignent le pouvoir personnel qui, selon lui, caractérisera nécessairement un président de la République élu directement par le peuple. Alors, maintenant, je voudrais ajouter quelques mots sur le caractère charnière de cet épisode dans l'histoire constitutionnelle française eu égard à cette question, à l'égard de cette question de l'élection de l'exécutif. Il est charnière d'un double point de vue, à mon avis. D'abord, il marque la fin d'une ère parce que les catégories développées sous la Révolution et que rappelait Pierre tout à l'heure, pour penser la politique, commence à se heurter à ce moment-là aux évolutions qui ont affecté la politique précisément depuis la fin du XVIIIe siècle. Et d'autre part, il constitue le début d'une ère nouvelle, justement, parce que l'expérience tragique de 1848, comme on le sait, va très durablement marquer on le sait, la pensée constitutionnelle républicaine en particulier, relativement à cette question. Alors, sur le premier point, le débat de 48 est, à mon avis, très intéressant parce que Ce sont des débats très, très singuliers parce qu'on assiste au télescopage entre un système conceptuel hérité de la Révolution et un monde politique et institutionnel nouveau. Le système conceptuel, c'est celui que je rappelais en commençant et sur lequel Pierre a insisté, c'est-à-dire cette opposition entre fonction législative et fonction exécutive. C'est-à-dire le fait que la fonction législative, ce soit la fonction de la souveraineté. Hein, le fait que c'est la volonté de la nation qui s'exprime lorsqu'on exerce cette fonction législative, alors que le pouvoir exécutif ne serait que la mise en œuvre matérielle, subordonnée, soumise de cette volonté législative. Et on trouve des exemples à foison dans les débats sous la Constituante de l'usage de ce système conceptuel. Il est encore en cours. On ne cesse d'utiliser ce système conceptuel pour décrire les institutions, pour argumenter autour des institutions. Et on le trouve, c'est ça qui est très frappant, cet usage aussi bien chez les partisans, enfin chez les opposants à l'élection du président de la République, que chez ses partisans. C'est ça qui est frappant. C'est qu'on aurait pu penser que ceux qui défendent l'élection du président au suffrage universel usent d'un vocabulaire différent. Mais non, ils utilisent encore ces catégories héritées de la Révolution. Par exemple, Tocqueville dira le 5 octobre « Dans la sphère législative, le président, tel que le projet de constitution l'établit, ne peut rien. Il n'a ni le veto absolu du roi constitutionnel, ni le veto suspensif du président des États-Unis. Hein, il n'a pas de fonction législative, donc. L'honorable préopinant, c'est-à-dire l'orateur précédent, vous le désignez comme le rival de l'Assemblée. Par le fait, il n'est que le simple exécuteur de ses lois, un pur agent de sa volonté, rien de plus, son bras pour me servir d'une comparaison employée. » Et là aussi, on pourrait multiplier les citations. Il y a quelques exceptions de gens qui réalisent les évolutions, mais elles sont assez rares. Donc ça, c'est le système conceptuel, et il va se heurter à une réalité politique nouvelle, politique et institutionnelle, et notamment l'accroissement des pouvoirs, des compétences de l'organe exécutif, qui est une évolution qui traverse les constitutions, hein, et qui ne va d'ailleurs pas cesser jusqu'à aujourd'hui. Les organes exécutifs, en effet, voient leur rôle politique, institutionnel, s'accroître, en particulier, comme je le disais tout à l'heure, par le fait qu'ils acquièrent l'initiative législative et une part très importante de l'initiative législative, alors que c'est quelque chose qu'on leur refusait sous la Révolution au nom de cette opposition entre législation et exécution. Et ce poids pris par les organes exécutifs dans l'initiative législative est un phénomène qui est très lié à l'émergence de la responsabilité politique des gouvernements qui va apparaître, comme chacun sait, sous les chartes en pratique, sans du tout avoir été théorisée à ce moment-là. Or, les constituants vont, dans la Constitution, consacrer toutes ces évolutions. Ils vont reconnaître l'initiative législative au pouvoir exécutif, aussi bien d'ailleurs au président qu'au Conseil des ministres. Ils vont, de la même manière, consacrer la responsabilité de l'exécutif, mais d'une manière pas du tout nette, pas du tout théorisée, presque en dépit de leur plein gré, pour reprendre une expression, l'expression consacrée. Et on voit qu'en fait, les rapports de l'Assemblée et de l'exécutif sont tout à fait mal pensés, mal fagotés dans cette Constitution. Il n'y a pas de théorie satisfaisante qui soit faite des rapports entre l'Assemblée et l'exécutif. Il faut dire que la théorie de ce rapport n'a sans doute pas encore été suffisamment faite par ailleurs. Mais on trouve des signes de cette inadéquation des solutions proposées aux compétences qu'on a attribuées aux uns et aux autres. Par exemple, encore une fois, la définition de la responsabilité politique ou de la responsabilité, disons, de la, du Conseil des ministres, enfin des ministres et du président de la République est très mal pensée. On ne sait pas qui est responsable de quoi, comment s'articule la responsabilité de l'un et des autres. Et puis, on voit aussi quelque chose de tout à fait typique, c'est que on prévoit que le mandat du président de la République sera de 4 ans, alors que le mandat de l'Assemblée nationale sera de 3 ans. Et cette inadéquation des mandats est typique de la pensée révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de rendre, d'associer l'exécutif à l'Assemblée du tout, puisque le président devrait être chargé d'exécuter les lois. Et en même temps, on lui reconnaît une initiative législative, on lui reconnaît un certain poids dans les affaires. Donc vous voyez, je crois qu'il y a vraiment la confrontation, le télescopage entre un système conceptuel et une réalité politique qui a évolué, qu'on consacre, mais dont on n'a pas vraiment pris conscience, sans doute. Ou en tout cas, on n'a pas pris conscience des conséquences institutionnelles que cela devrait avoir. Alors, est-ce en raison de ce télescopage ou pour d'autres raisons, et il y en a sans doute beaucoup d'autres, peu importe, il se trouve que cette innovation majeure de la Constitution de 1848, c'est-à-dire l'élection du président au suffrage universel, va être discréditée pour longtemps en République en raison de la fin tragique et très rapide de cette Constitution, en raison du coup d'État fomenté et réussi par Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. Louis-Napoléon Bonaparte qui a été élu président de la République le 10 décembre 1848. C'était le premier président de la Seconde République qui n'était pas un républicain convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est le second point, c'est que ça a mal fini et puis ça... Cette constitution, et on a vu cette élection disparaître pendant longtemps et être honnie par les républicains jusqu'en 1962. Alors, il est fascinant de constater, j'en terminerai par là, que les débats à la constituante autour de l'élection du président comporte une dimension à la fois tragique et prophétique. Hein, on voit ce qui va se passer, c'est-à-dire en gros la prise de pouvoir de Louis-Napoléon, l'élection de quelqu'un d'anti-républicain qui va dominer l'Assemblée et qui va finir par faire un coup d'État. On voit cet événement-là être très précisément prévu par certains constituants. Ils le disent de manière tout à fait explicite. Il y a quelque chose de tragique à voir la catastrophe être annoncée de manière aussi nette. Par exemple, Parieux dit « Si vous avez un président nommé par la grande majorité des suffrages de la nation, qu'il se soit acquitté de son mandat de manière à accroître sa force dans le pays, eh bien je crois que par aucun moyen, si vous lui avez donné cette relation directe, filiale en quelque sorte avec le pays, dans ces conditions-là, vous ne pourrez lui dire avec commandement « ton mandat est fini, il doit s'arrêter et ne peut pas se continuer ». Vous ne pourrez pas enchaîner le pays dans un cas semblable, vous ne pourrez annuler l'influence de ce chef et vous arriverez nécessairement, avec ses relations directes du pouvoir exécutif avec la nation, vous arriverez à ce qu'il domine la représentation nationale elle-même, vous arriverez à ce qu'il soit plus fort qu'elle et entraîne tôt ou tard, en le mettant en lambeaux, l'obstacle de la non-régibilité. » Donc, c'est vraiment très précis. Tocqueville dit des choses à peu près semblables en disant « bah oui, mais que c'est pas grave, il vaut mieux qu'on lui interdise d'être réélu, quitte à ce qu'en effet ça provoque chez lui une tentation de briser la Constitution, mais il préfère ça que quelqu'un, un président qui songe constamment à sa réélection, donc il lui préfère le système de la non-rééligibilité. » L'exemple le plus connu de ces prophéties un peu tragiques, c'est évidemment Lamartine, la déclaration de Lamartine le 6 octobre, qui dit « Oui, quand même le peuple choisirait celui que ma prévoyance mal éclairée peut-être redouterait de lui voir choisir, n'importe. Alea jacta est. Que Dieu et le peuple prononcent. Il faut laisser quelque chose à la Providence. Elle est la lumière de ceux qui, comme nous, ne peuvent pas lire dans les ténèbres de l'avenir. » Invoquons-la, prions-la d'éclairer le peuple et soumettons-nous à son décret. Peut-être périrons-nous à l'œuvre, nous ? L'Assemblée dit non, 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 en effet. et il serait même beau d'y périr en initiant son pays à la liberté. Donc on voit que, on assume, peut-être que ça va finir dans la dictature, mais après tout, peu importe, c'est le peuple qui aura décidé. Tout cela va évidemment marquer assez profondément la culture républicaine, ce qui explique donc l'absence d'élection du président au suffrage universel jusqu'en 1962. Il y a également, ce sera mon dernier mot, quelque chose de prophétique dans un autre sens dans les débats de 1848. C'est le fait qu'on trouve dans les arguments de l'époque beaucoup d'arguments qui rappellent soit des arguments qui vont être invoqués autour de l'élection du président sous la Ve, ou alors des arguments qui aussi sont des descriptions assez intéressantes de ce qui s'est passé sous la Ve République. Par exemple, je voudrais juste citer au moins cette phrase qui me paraît tout à fait parlante, parce que c'est Félix Piat, un opposant républicain donc à l'élection, qui dit quelque chose qui rappelle vraiment furieusement ce que dira De Gaulle de sa position, notamment, c'est le De Gaulle version conférence de presse de 1964. Il dit, le président, enfin, pourra dire à l'Assemblée, « Je suis plus que chacun de vous, autant et plus que vous tous. Chacun de vous n'a été élu que par un département, non par la France. Chacun de vous n'a été élu que par la majorité relative et moi à la majorité absolue. Je vaux à moi seul plus que toute l'Assemblée. Je représente mieux le peuple, je suis plus souverain que vous. » De manière plus générale, on voit dans la Constitution de 1848 en fait un certain nombre d'ambiguïtés qui rappelle furieusement les ambiguïtés de la Ve République. On a un président de la République dont on ne sait pas vraiment s'il va être dominant ou seulement indépendant. On voit un gouvernement dont on ne sait pas vraiment quel va être le rôle vis-à-vis du président, son indépendance vis-à-vis du président, etc. Le moins que l'on puisse dire, donc, c'est que les questions qui s'étaient posées en 1848 font écho à celles que l'on a pu se poser à propos de la Constitution de 1958, ce qui me permet de faire une transition sur ce que va raconter Pierre.
Merci beaucoup. Alors, la citation de Pierre est saisissante puisque, en effet, le général de Gaulle tiendra exactement ce discours expliquant que lui, il est l'élu de la nation tout entière, tandis que les députés ne sont que les élus de circonscription. Ce propos... vous l'avez évidemment tout de suite compris, anéantit toute la construction de l'élection et de la représentation révolutionnaire. Et il est assez difficile d'identifier le moment où se cristallise ce discours et où il est admissible. Le paradoxe, lorsque l'on parle de 1958, et donc de 1962, c'est qu'on se trouve un petit peu dans la situation de n'importe quel Français qui discute de la langue française. Chacun a un avis, et les termes avec lesquels on discute cette question ne sont eux-mêmes jamais interrogés, et les présupposés des positions politiques ou théoriques des uns et des autres sont très rarement explicités. Si l'on veut mesurer le bouleversement qu'entraîne l'élection du président de la République en 1962, il faut revenir un peu en arrière. Il faut s'intéresser au discours parlementaire de la Troisième République. Mais évidemment, ce n'est pas le lieu ici de faire une histoire du concept de régime parlementaire sous la Troisième République. Non, il faut simplement tenter de se décaler, de se déporter légèrement dans le temps pour... mesurer que sous la Troisième République, c'est le moment où se cristallise là le discours parlementaire qui sera précisément celui que cherchera à détruire, en quelque sorte, ou à démolir De Gaulle. Mais avec toute la bonne foi qu'on lui connaît, De Gaulle estimait que ces parlementaires de la Troisième République étaient, je le cite, ça n'est pas une citation d'un autre, étaient des racailles. Et vous avez des textes tout à fait impressionnants dans les lettres de Gaulle, notamment la fameuse lettre de 1915 à sa mère, dans laquelle, en effet, il juge que ces parlementaires, c'est une bande de racailles. Donc, il y a une très forte actualité hein, du propos. Alors, si on veut maintenant revenir, donc, on peut revenir à cette conception du régime parlementaire sous la Troisième République. Je vais faire une citation un peu longue à partir d'un auteur qui n'est pas un immense penseur du droit constitutionnel, mais qui a le mérite d'avoir produit beaucoup de textes sur la justification du régime parlementaire à un moment où, encore une fois, bien sûr, le régime parlementaire est admis à partir à la fin du XIXe siècle, mais en 1900-1901, il y a tout un mouvement de constitutionnalistes qui tente de réfléchir à une amélioration de l'efficacité du système, à une relative réduction du poids des assemblées, sans pour autant basculer dans ce régime autoritaire qui reste encore gravé dans les mémoires. Et je vais m'appuyer rapidement sur un texte de Félix Moreau, paru en 1901 dans la Revue politique et parlementaire, justement, dans lequel il tente de décrire ce que pourrait être le rôle d'un chef d'État dans un régime représentatif. Et ce régime représentatif ou parlementaire, alors je ne vais pas ici développer l'ambiguïté des termes et on va par commodité admettre qu'ils sont synonymes, ce régime représentatif doit absolument être un système ou un régime dans lequel les partis luttent les uns contre les autres. Un régime dans lequel, en effet, il y a des luttes partisanes au sein de l'Assemblée, et ces partis, précisément par la lutte verbale dans laquelle ils s'engagent au sein de l'Assemblée, peuvent parvenir à dégager une volonté qui s'imposera à la nation. On retrouve inscrite en termes de parti politique une conception de la délibération qui était, au fond, celle révolutionnaire. Mais ce qui change ici, c'est évidemment la création des partis politiques, la reconnaissance de la nécessité de partis politiques pour animer la vie politique, et implicitement aussi la reconnaissance d'un élément que l'on a tendance à négliger souvent, qui est la reconnaissance de la professionnalisation de l'activité politique. Et le régime parlementaire, pour Félix Moreau, c'est tout simplement des ministres qui gouvernent, qui représentent la majorité au pouvoir, tandis qu'un chef d'État représente la nation entière, et il ne doit donc pas gouverner. Un chef d'État, un chef de l'État représentatif, c'est celui, insiste-t-il, qui incarne l'unité, mais qui ne doit relever d'aucun parti. C'est une chose qu'on connaît, c'est une chose qui nous est familière, c'est une chose que nous pratiquons tous les jours. Et alors, comment nommer ce chef de l'État ? Impartial, dégagé des partis politiques, eh bien, en aucun cas, on ne pourrait le faire élire, bien sûr. La décision de le faire élire par le peuple est très dangereuse, parfaitement inconciliable avec la mission d'arbitre que l'on veut lui confier. Élu par le peuple, il ne peut exercer un rôle discret. L'expression de rôle discret, c'est une expression que j'emprunte à Moreau. Et j'ai cette citation un peu longue que je me propose de faire. « Représentatif, s'il était élu, il le serait trop. Quelle figure feront les chambres membre à membre par des groupes restreints d'électeurs en face du président acclamé par la voix unique et formidable du peuple entier ? Qu'arrivera-t-il s'il n'est pas d'accord avec elle ? Comment choisir entre deux organes de la représentation, ou plutôt, comment ne pas choisir celui que la nation entière a élu ? Pense-t-on à la ressource d'une dissolution ? Mais comment laisser aux mains du président une arme aussi terrible ? Comment espérer qu'il s'en serve avec l'impartialité nécessaire ? Comment concevoir que la nation se déjuge en lui donnant tort ? Et quelle situation si elle lui donne tort ? Tout cela est évidemment trop dangereux. Le président d'une république parlementaire n'ayant pas l'exercice du pouvoir ne sera pas élu par la nation. Alors, quand on a en tête ces propos-là, bien évidemment, analyser le discours gaullien et le discours des successeurs de De Gaulle et le discours des constitutionnalistes décrivant le discours gaullien et le discours des successeurs de De Gaulle devient assez difficile, mais parfois très amusant, il faut bien le reconnaître. La première chose qu'il faut comprendre et qu'il faut, je crois, mesurer, c'est que la pensée constitutionnelle de De Gaulle est fondée sur un très grand nombre de dualismes qui, parfois, n'échappent pas à une forme de manichéisme. Il y a, on le sait, c'est une sorte de lieu commun, il y a évidemment une immense mégalomanie chez De Gaulle, pas besoin d'être un grand psychologue quand même pour l'identifier, et cette mégalomanie fait qu'il se conçoit, il s'autorise, comme l'aurait dit Bourdieu, à parler au nom de la nation, aussi bien dans des lettres à sa mère que dans des conférences de presse. Et ce dualisme, ou plutôt cette mégalomanie, le conduit effectivement à considérer qu'il y a d'un côté l'incarnation du peuple ou de la nation, les termes chez lui sont tout à fait synonymes, et de l'autre côté, les partis, les partisans, les particularismes locaux, les circonscriptions locales, bref, la fragmentation. Donc d'un côté, il y a l'unité, et de l'autre côté, il y a l'éparpillement. Et cette conception est très ancienne chez lui. Je veux dire par là qu'il ne découvre pas cela en 1958, il ne le découvre pas non plus en 1962, ni en 1965, au moment de la première élection. Il a toujours admis, encore une fois, qu'il y avait d'un côté cette unité et de l'autre côté la diversité qui est souvent connotée de manière assez péjorative. La diversité, c'est une forme de médiocrité. Et on a bien évidemment des témoignages très, très évidents. Encore une fois, lorsqu'il s'agit de parler des parlementaires, je l'ai dit, il a des termes qui sont très négatif, mais en 1948, on connaît cette allocution prononcée devant des comités professionnels dans lequel il parle justement d'un régime dans lequel le peuple aura institué au-dessus de tout, en toute matière et notamment en matière sociale et économique, un arbitrage qu'il aura lui-même institué en désignant le chef de l'État, qui lui aura la charge, la mission de devoir arbitrer au nom du peuple, par-dessus tous les intérêts, toutes les matières, quitte bien entendu à réserver au peuple le jugement en dernier ressort quand il sera nécessaire de lui demander de trancher. Autrement dit, il n'a jamais fait aucun doute que pour De Gaulle, évidemment, le chef d'État est une autorité supérieure. Et ce faisant, il n'a pas une conception du pouvoir exécutif qui est exactement celle que l'on se faisait encore sous la Révolution et encore sous la République. Alors, bien évidemment, on le sait, il ne procède pas, le projet de 58, ou le texte de 58 ne contient pas dès le départ l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct. Il y a pour cela des raisons circonstancielles tout à fait évidentes. D'abord, il y a quand même une difficulté, probablement une difficulté politique à la fois proposer un projet rédigé tout de même assez rapidement et introduire dès le départ, une élection qui reste un tabou en France en 1958. Et puis, il y a le problème de l'Union française. Il y a le fait que si on procédait à une élection du président au suffrage universel direct dès 1958, eh bien, on pourrait voir se constituer une majorité non métropolitaine. Alors, remettez-vous un tout petit peu dans les configurations d'hier, encore qu'aujourd'hui encore, il me semble que on peut le comprendre, ça n'est pas tout à fait évident. Il faut donc, dans un premier temps, effectivement, résoudre le problème de l'Union française pour envisager une élection du président au suffrage universel direct. Certains constitutionnalistes expliquent que De Gaulle n'a jamais eu l'idée, dès le départ, de procéder à cette élection. Quand on creuse les arguments en faveur de cette idée, on voit qu'ils sont assez fragiles. Je cite très rapidement, mais sans aucune volonté d'avoir un jugement négatif à l'égard de Léo Hamon, mais Léo Hamon, par exemple, expliquait que non, sans doute que le suffrage universel n'était pas retenu dès 58, les textes de l'époque sont formels, René Cassin lui-même l'aurait confirmé, et une discussion avec De Gaulle, entre De Gaulle et Léo Hamon, laisse penser que quand même, en 56, De Gaulle était très hostile à un scrutin au suffrage universel direct, ça risquait, dit-il, par Léo Hamon, de conduire un système américain. L'obligation pour un candidat de faire campagne, de devoir séduire la population, bref, des choses qui n'étaient pas du tout dans l'esprit de De Gaulle. Certes, De Gaulle, effectivement, n'aimait pas séduire en faisant campagne. En 1965, par exemple, il refuse de faire campagne au premier tour. Il ne le fait que parce que quelqu'un d'autre a eu l'audace de le mettre en ballottage. Mais il reste que cette idée d'une élection du président au suffrage universel direct est très ancienne. On peut en trouver des traces. Mais on peut en trouver des traces à la condition d'admettre que l'élection du chef de l'État chez De Gaulle n'a rien à voir, en effet, avec une élection ordinaire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'a aucune difficulté à affirmer ce qui pourrait paraître à un républicain d'avant une énormité, à savoir qu'il y a d'un côté l'élection d'un individu et de l'autre l'élection de plusieurs individus. Parce que, tout simplement, le mot « élection » n'a chez lui absolument pas le même sens. L'élection du chef de l'État, c'est une forme de sacre. C'est une forme de communion mystique entre une unité fantasmée et une unité absolument réelle, qui est la personnalité de De Gaulle. Tandis que l'élection du Parlement, eh bien, ma foi, ce sont des petites affaires relativement administratives, où l'on va en effet désigner des individus qui vont ensuite aller barboter à l'Assemblée nationale. J'exagère à peine. Il y a chez De Gaulle, en effet, une conception de l'élection du chef de l'État qui échappe complètement aux catégories classiques du langage et du vocabulaire ou de la conception politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la notion même de majorité présidentielle ne se fait admettre ou n'est admise qu'avec beaucoup de difficultés sous la Ve République. Je veux dire par là que ça n'est véritablement qu'en 65 que l'on voit apparaître cette idée. Mais elle est tout à fait incompatible, en effet, avec les catégories politiques dont se sert De Gaulle. Alors, bien sûr, il y a une objection. De Gaulle n'était pas le seul homme politique sous la Ve République, et sa conception a été fortement critiquée. Elle a été fortement critiquée par quelqu'un qui se détachera énormément des institutions de la Ve République, qui est François Mitterrand, qui, dans un entretien très intéressant avec Maurice Duverger, discute du régime présidentiel. Maurice Duverger, constitutionnaliste, politologue, qui est un des pères de la science politique moderne, qui a en quelque sorte rompu avec le droit constitutionnel classique. Maurice Duverger défend le régime présidentiel dans des termes qui peuvent nous faire un peu sourire, il faut bien le reconnaître. Je ne peux pas m'empêcher de vous citer cette idée de Duverger, qui est que le régime présidentiel est une nécessité parce que le peuple a besoin de personnaliser le pouvoir. On ne peut pas se contenter d'idées abstraites. Et devant Mitterrand, il explique que notre système parlementaire... tout peuple a un certain besoin de personnaliser le pouvoir, que dans notre système parlementaire, tout se trouvait astucieusement combiné pour que ce besoin ne soit jamais satisfait. Les crises du bonapartisme, du boulangisme, du gaullisme sont les crises d'un peuple frustré. C'est du freudisme élémentaire, je le cite. « Si vous empêchez quelqu'un de satisfaire ses instincts sexuels, vous risquez d'en faire un dévoyé et un criminel. Le peuple français est un dévoyé de la personnalisation du pouvoir. » Mitterrand reste impassible, explique que néanmoins, c'est vrai que les idées abstraites ont besoin parfois, sont un peu fatigantes, il le dit, elles ont besoin d'être personnalisées, mais enfin il reste qu'une compétition électorale, dans une compétition électorale, la personnalité du candidat ne doit pas être l'élément majeur. Les électeurs doivent se prononcer d'abord sur une certaine politique et parallèlement, mais secondairement, choisir l'homme qui sera chargé de l'appliquer. Et un peu plus tard, en 1964, il écrira dans le coup d'État permanent que l'élection du président au suffrage universel est acceptable en soi, mais n'avait pas d'autre but que parachever la lente dénaturation des institutions politiques qui régissent la France. En fait, cette élection a toujours été contestée. Elle a toujours été contestée de manière, c'est vrai, assez minoritaire, et probablement que ça, c'est une hypothèse personnelle, mais la difficulté de la contester vient de ce que les grands contestataires étaient au fond très à gauche, et c'était principalement le Parti communiste. Et donc, il y avait d'une certaine manière cette idée que si on conteste cette élection, alors on a le discours du Parti communiste. Mais il reste que la contestation de cette élection est devenue quasiment impossible parce que les constitutionnalistes ont trouvé une formidable justification à cette élection. Et cette justification est d'une efficacité redoutable, même si, à mon sens, elle est trompeuse. Elle vient de l'idée que l'élection est en fait logique. L'élection du chef d'État dans la Ve République est logique. Elle est logique pourquoi ? Parce que, en réalité, ce chef d'État a des pouvoirs tellement importants qu'il ne pourrait pas ne pas être élu. Et je pourrais citer un très grand nombre de constitutionnalistes qui ont défendu cette thèse, cette idée que l'élection n'est donc pas une source de légitimité en soi, elle le devient seulement parce qu'elle s'applique à des fonctions dont la nature exige que leur titulaire soit ainsi désigné. Ce n'est pas parce que le président de la Ve est élu au suffrage universel direct qu'il joue le rôle que l'on sait, c'est parce qu'il joue ce rôle qu'il est élu au suffrage universel. Alors, cette affirmation, en effet, est très efficace, dans la mesure où elle renverse la logique apparente, elle semble nous révéler des choses qui sont, au fond, cachées depuis la fondation, sinon du monde, depuis la Ve République. Mais cette justification, à mon sens, est trompeuse. Trompeuse d'abord parce qu'elle est une justification, alors qu'elle n'explique, elle prétend ou elle se donne l'illusion d'une explication d'ordre causal. Les pouvoirs font l'élection. C'est comme cela que l'on rend compte de cette thèse. Et ça n'est pas l'élection qui fait le pouvoir. Sauf que quand on dit que les pouvoirs font l'élection, le terme « faire » n'est pas employé exactement dans le même sens que lorsque l'on dit que l'élection fait le pouvoir. Tout simplement parce qu'on ne parle pas exactement du même pouvoir. L'élection fait le pouvoir, c'est-à-dire qu'en effet, c'est au fond la thèse que nous avons défendue dans l'article, et c'est la thèse que l'on peut en effet reconnaître au regard de la Ve République. L'élection fait le pouvoir parce que l'élection donne, conduit à faire une lecture des compétences du président, qui est une lecture extrêmement, enfin une lecture présidentialiste, pour prendre un terme commode, une lecture au terme de laquelle ces compétences sont très importantes. Et en réalité, si on réfléchit un tout petit peu, on se rend compte que les pouvoirs donnés peuvent en effet apparaître puissants. La dissolution, l'état d'urgence. Mais il reste que ces pouvoirs mis en œuvre par une autorité élue sont encore plus importants. De sorte que rien, sinon la volonté de constituer un président très important et très fort contre ou en face du Parlement, explique que précisément on procède à son élection. Mais si vous ne souhaitez pas avoir un président aussi puissant, vous n'avez plus besoin de le faire élire. Ou plutôt, vous pouvez penser que ne pas l'élire est un moyen précisément de limiter considérablement l'interprétation qu'il fera et que l'on fera également des compétences qui lui sont reconnues. Et toute la difficulté vient de ce que nous avons, nous, depuis 1962, au fond, implicitement admis la conception gaullienne d'un président qui est une autorité distincte des autres. Ça n'est même plus une autorité politique, c'est en effet une sorte d'autorité sacrée, c'est effectivement un monarque. Et alors, effectivement, la lecture gaullienne de ses propres institutions a très largement gagné. Il voulait faire une monarchie républicaine, et cette monarchie républicaine, personne aujourd'hui ne semble la contester. Mais encore une fois, ceci est le résultat d'une habitude que l'on a prise de faire de cette élection un moment solennel totalement distinct de l'élection ordinaire, de l'élection législative. Alors même que nous admettons aussi, dans le même temps, les hommes politiques, les hommes et femmes politiques admettent dans le même temps que l'élection législative est très importante. En réalité, ce que l'on mesure ici, c'est que, tout simplement, nous vivons sous l'empire d'un même mot, qui est le terme d'élection, mais qui n'a en réalité jamais le même sens selon que l'on parle de l'élection du président ou l'élection des députés. Et on mesure fort bien cela si l'on essaye de se mettre, avec un très gros effort, dans l'idée que, effectivement, le président que nous élirons bientôt est au-dessus des partis. Cette thèse-là, cette thèse selon laquelle l'élection était nécessaire pour faire du chef de l'État une autorité au-dessus des partis, cette thèse, plus personne ne peut la défendre sérieusement. En revanche, il y a une thèse qui est tout à fait évidente, qui est empirique, qui n'est pas une justification, c'est qu'aujourd'hui, cette élection provoque le pouvoir considérable du chef de l'État. Merci.